Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, ici Lucie, vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'information locale de Canal B, une spéciale lutte environnementale et sociale comme chaque dernier vendredi du mois. Et au sommaire, donc, l'info du jour, mobilisation de Nous Toutes 35 pour l'hébergement d'urgence, les reportages et interviews de trois radios partenaires de la coordination des radios locales et associatives de Bretagne. Il y aura de la musique dont une nouveauté et puis la recommandation du jour, une projection de court-métrage ce week-end. Bienvenue dans La Reine. Allez, comme chaque jour, on lance l'émission d'information locale avec l'info du jour, une parmi d'autres croisée dans les médias locaux. Aujourd'hui, on revient sur la mobilisation de l'association féministe Nous Toutes 35. Jeudi 22 février, des militantes étaient réunies devant la gare de Rennes pour alerter sur la situation critique de l'hébergement d'urgence en Ille-et-Vilaine, notamment à destination des victimes de violences intrafamiliales. 200 places manqueraient pour répondre aux besoins des femmes victimes de violences et la maison des femmes récemment inaugurée ne vient, selon Nous Toutes 35, pas apporter de réponse à cette problématique. L'association réclame donc d'urgence la création d'hébergements qualitatifs, également la suppression du plafonnement des nuitées hôtelières fixées par l'État. On rappelle qu'en 2023, 134 femmes sont mortes sous les coups d'un conjoint ou ex-conjoint. Un message qui devrait être martelé à nouveau lors de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes le 8 mars prochain. Allez, après cette info du jour, on passe au sujet d'une spéciale lutte environnementale et sociale ici en Bretagne. Et le premier sujet, c'est un reportage de Morgane Large de RKB, Radio Crèze-Brèze, qui est implantée entre Guingamp et Rostrenin, dans les Côtes-d'Armor. Morgane a rencontré Gisèle Garraud, une ancienne agricultrice victime des pesticides. C'était au moment d'un jugement rendu au tribunal des affaires sanitaires et sociales de Saint-Brieuc. Et ce reportage, il a été diffusé dans l'émission La Petite Lanterne, fin janvier.
Alors, je vais vous demander de vous présenter.
Alors, je m'appelle Gisèle Garraud. Je suis ancienne agricultrice dans le centre de Bretagne, à Plouguer-Nivelle. Et j'ai la maladie de Parkinson, donc depuis, qui a été diagnostiquée en 2011, mais les symptômes datent d'avant.
Comment vous avez senti que vous étiez malade? Comment vous êtes tombée malade? Comment ça s'est passé, Gisèle Garraud?
Mais en fait, d'abord, je sentais que j'avais plus de force dans les bras, beaucoup, beaucoup de fatigue, et puis j'ai commencé à trembler. Et à partir de ce moment-là, je ne me suis pas trop inquiétée quand même, mais je suis allée voir mon médecin qui m'a dirigée vers une neurologue qui a diagnostiqué la maladie.
Tout de suite?
Tout de suite.
D'accord. On est là devant le tribunal des affaires sanitaires et sociales à Saint-Brieuc. C'est un lieu où vous avez eu quelques audiences parce que cette maladie de Parkinson, vous l'attribuez à votre métier, c'est ça?
Oui, en fait, au départ, j'ai pas fait tout de suite la relation. C'est par la suite où je me suis dit, mais là, il y a un problème. Et puis, j'ai contacté le collectif des soutiens des victimes des pesticides. On a discuté un peu. Effectivement, ça valait le coup de faire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. C'était un vrai parcours du combattant. Et ma première demande date de 2019. C'est pour dire, on est en 2024. Et c'est la deuxième fois que je viens au tribunal ici.
Et alors, comment ça s'est passé, cette première fois au tribunal?
Eh bien, la CPM était dans l'obligation d'instruire mon dossier avec le tableau de numéro 58 des maladies professionnelles de la MSA.
Faut de l'énergie pour mener ces combats-là, faire reconnaître sa maladie de Parkinson en maladie professionnelle, Gisèle Garraud?
Alors, non seulement faut de l'énergie, mais faut être surtout soutenu. Et c'est pour ça que le collectif de soutien aux victimes des pesticides, s'il n'avait pas été là, j'aurais pas pu continuer, parce que ça, c'est pas possible. D'être tout seul, en plus, vu ce qu'on nous oppose, il n'y a aucune information sur les risques de la maladie, en fait. Et la MSA ou la CPAM, enfin les organismes sociaux, ne donnent aucune information sur ces risques-là.
C'est-à-dire?
Ben, c'est-à-dire, à partir de, on n'a pas de... Comment dire ça ?
De mise en garde ?
C'est non seulement de mise en garde, mais quand on est malade et qu'on a, on est reconnu en tant que tel, puisqu'on est reconnu en maladie longue durée, on ne nous dit pas, tiens, ça pourrait être dû aux pesticides, en fait. Il n'y a pas aucune information par rapport à ça.
Ça a été quoi votre parcours depuis 2019, Gisèle Garon ? Parce qu'il y a, j'imagine, il y a un volet judiciaire, oui, juridique, tribunal des affaires sanitaires et sociales, caisse primaire d'assurance maladie, reconnaissance maladie professionnelle, mais aussi un parcours médical.
Alors,
à mener de front.
Le premier parcours, déjà, c'est la première chose, c'est déjà de pouvoir reconnaître sa maladie soi-même. Et c'est déjà assez difficile. Quand on nous annonce ça, c'est complètement... C'est très, très dur. Et puis après, c'est de prendre conscience que ça a pu être provoqué par les pesticides. Je n'ai pas fait tout de suite la relation. C'est plus tard que j'ai fait la relation. Et à partir de ce moment-là, ben, effectivement, on rencontre des médecins régulièrement. Pour voir, parce que c'est une maladie extrêmement évolutive, qui évolue lentement, certes, mais qui évolue quand même. Et tous les 6 mois, ben, on revoit le traitement. Hein. On revoit le traitement qui, au bout de 10-15 ans, ne fait plus effet. C'est-à-dire que pendant toutes les 10 premières, 10-15 premières années, c'est ce qu'on appelle la lune de miel, d'un point de vue médical. Et en parallèle, ben, on est obligé de se battre pour faire reconnaître la maladie.
On va y aller.
L'audience commençant, on arrête cette interview. On se retrouve dans un tout petit instant pour en savoir plus sur ce qui s'est passé dans la salle du tribunal.
Alors, Maître Baron, vous représentez aujourd'hui Madame Garot au tribunal des affaires sanitaires et sociales de Saint-Brieuc. C'est un dossier dans le cadre d'exposition aux pesticides. C'est un peu la spécialité de votre cabinet, il me semble.
Absolument. C'est le cœur de métier de notre cabinet.
Pourquoi on est au tribunal aujourd'hui pour Madame Garot ?
Alors, on est au tribunal pour voir réévaluer son taux d'incapacité permanente partielle, qui est le taux sur la base duquel est calculée la rente. Et donc ce taux, il est estimé en fonction de l'impact de la maladie sur l'état de santé de Madame Garot.
On rappelle, c'est la maladie de Parkinson. Absolument. Dont est atteinte Madame Garot. Comme pas mal de personnes exposées aux pesticides, c'est une des principales pathologies dont souffrent les victimes des pesticides.
Oui, absolument. La maladie de Parkinson, c'est une des maladies les plus représentées dans les procédures que nous menons.
Alors, il y a une première expertise qui est tombée et qui évalue le taux d'incapacité à 25%, c'est ça ?
En fait, c'est une évaluation par le médecin conseil de la caisse. Oui, qui évalue... Enfin, on a le rapport et le rapport conclut à 25%.
C'est ce que vous êtes venu contester aujourd'hui ?
Exactement, oui.
Vous avez parlé du fonds d'indemnisation des victimes des pesticides ?
Oui, aujourd'hui, c'est le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides.
C'est quoi ce fonds ?
Alors ce fonds, il s'appelle fonds et ce n'est pas vraiment un fonds. C'est plutôt, on va dire, un organe des caisses de sécurité sociale qui va regrouper les demandes et les dossiers qui ont trait à des personnes qui ont été exposées aux pesticides.
Donc on centralise ces problématiques.
Exactement. C'est plus un outil de centralisation que vraiment un fonds qui indemnise de manière totale les victimes.
Alors, Madame Garot, elle parle d'une expertise qu'elle a eue, dans laquelle, de vive voix, le médecin qui l'a examinée lui a dit que le taux se situerait autour de 67% d'incapacité. Et c'est une fois que le dossier est examiné au niveau national que le taux baisse. Et vous aviez l'air de dire, lorsque vous avez plaidé, que c'est déjà arrivé.
Oui, alors ça, c'est... On va dire que c'est mon hypothèse privilégiée, puisque moi, comme élément, j'ai ce que m'a dit Madame Garot, donc sur ce taux à 67%, et j'ai la décision qui mentionne le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides sans que j'aie le compte-rendu du fonds. Donc, partant de ces éléments et vu les expériences qu'on peut avoir, je pense effectivement que c'est ce qui s'est passé. Et oui, nous avons des cas de figure dans lesquels nous avons un premier rapport qui mentionne un taux élevé et un deuxième rapport qui mentionne un taux revu complètement à la baisse.
Les questions juridiques sont assez simples. On est sur une question qui est finalement assez médicale, mais au-delà de ça, comme le disait Michel...
Hermine Baron, avocate de Gisèle Garot.
Ça pose vraiment la question du mécanisme lui-même et de la juste indemnisation des victimes. Et on est quand même en train d'observer, je le pense, Michel, je pense, ne me contredira pas, quand même un petit peu un nivellement par le bas de l'indemnisation des victimes, dans la fixation des taux, etc. Et là, on en a un cas vraiment très symptomatique, puisqu'on a un médecin qui se mouille suffisamment pour venir dire « je vous le fixe à 67% votre taux ». Et puis ensuite, une décision qui vient saquer ce taux et qui vient le fixer. On est quand même presque à un tiers du taux initial fixé, quoi. 25%, 67%. Donc là, la suite, c'est une décision qui interviendra le 31 mars, qui pourra être notamment la désignation d'un expert, ce qui est généralement la procédure qui est observée par les tribunaux, et qui, lui, aura donc à se reprononcer sur le taux. Voilà.
Oui, mais ça, c'est... Je trouve que c'est dégueulasse aussi, parce que...
Michel Bénard, porte-parole du collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest.
Ben, on sait que l'anxiété, elle est liée à Parkinson. Tous les gens dans le collectif, on a aidé 140 personnes jusqu'à présent à être reconnues en maladie professionnelle. Il y en a une bonne moitié qui ont Parkinson. Tous les gens qui ont Parkinson souffrent d'anxiété. Donc l'anxiété, elle est liée à tous les gens qui ont Parkinson. Ne pas prendre en compte la question de l'anxiété aujourd'hui, mais c'est de l'hypocrisie. Enfin, voilà, parce que ce ne serait pas marqué d'un compte-rendu médical, mais c'est inhérent à Parkinson, l'anxiété.
On avait interrompu la discussion parce qu'il fallait aller à l'audience. Là, c'est terminé. Comment ça s'est passé?
C'est à la fois dur, il va falloir continuer, il faut encore produire des pièces que je n'ai pas eues, il va falloir les redemander. Et... on ne peut pas dire que ce soit mal passé ni bien passé, en fait. C'est reporter encore une fois le problème, quoi.
Les expertises, elles interviennent tous les combien de temps dans le cadre normal?
Tous les 6 mois.
D'accord.
Tous les 6 mois, j'ai un compte-rendu du neurologue. Alors, c'est pas ce qu'on appelle à proprement dit une expertise, c'est un compte-rendu de neurologue. Une expertise, c'est plus... un médecin qui serait complètement indépendant, qui ne me suit pas, en fait, l'expertise, il ne faudrait pas qu'il ne me connaisse pas et qui établisse une expertise un jour donné, quoi.
Mais ça veut dire qu'on pourrait réévaluer le taux tous les 6 mois, le taux d'incapacité?
De toute façon, ce qui est incroyable, c'est qu'avec la maladie de Parkinson, dire qu'il y a une consolidation, c'est pas possible, parce que le principe de la consolidation, c'est qu'on estime que la maladie est stabilisée. Or, dans la maladie de Parkinson, elle ne peut pas se stabiliser puisqu'elle est évolutive. Donc, oui, effectivement, on pourrait réévaluer tout le temps.
Mais ça veut dire que vous êtes amené à revenir?
Ah ben là, je suis amené à revenir parce qu'il faut que je fournisse ce document, en fait, prouvant, enfin, de conclusion d'expertise que je n'ai jamais reçu, en fait. Donc, on va le demander. Enfin, gagne du temps, je ne sais pas pourquoi.
Et pour l'instant, vous avez été indemnisée?
Alors, je suis indemnisée à tour de 206 euros par mois.
206 euros par mois?
Oui, c'est 208, je ne sais plus, mais enfin, voilà.
On ne peut pas vivre?
Ah non, surtout que... Non, on ne peut pas vivre avec ça. Non, ça, c'est pas possible.
Et donc, si aujourd'hui, si le 31 mars ça se passe bien au tribunal, vous pourrez atteindre quel taux d'incapacité et combien vous pouvez toucher par mois en étant malade de Parkinson?
En fait, avec le médecin conseil de la caisse, on avait fait le calcul, il m'avait dit que ce serait autour de 600 euros.
Fortune.
Une fortune, par rapport aux 200, c'est sûr. Donc ça fait quand même une grosse différence, quoi.
Il y a une histoire de rente?
Alors, c'est ce qu'on appelle une rente.
C'est ça, la rente.
C'est ça, la rente. Faut pas... La différence entre la maladie professionnelle et l'invalidité, c'est que l'invalidité, on va toucher une indemnité qui va être versée jusqu'à la retraite, tandis que la rente, liée à la maladie professionnelle, c'est versée jusqu'à la mort. Donc, même si on est à la retraite, là, en fait, la rente, l'indemnité, vient en supplément de la retraite.
Sans le collectif de soutien aux victimes des pesticides, ce serait compliqué?
Ah, je n'aurais pas tenu le choc. Ce serait pas possible, j'aurais pas pu y aller. J'aurais abandonné depuis longtemps.
Merci à Morgane Large de Radio Crèze-Bresse pour ce reportage. On revient à Rennes et en studio, mais on reste quand même au chapitre environnement avec une interview afin d'annoncer des portes ouvertes organisées dimanche 25 février dans une micro-ferme urbaine. Anthony Morand, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes le porte-parole des Amis de Permagraine, une association qui porte un projet de ferme urbaine sur le site de la Prévalais, et on vous reçoit pour annoncer un après-midi porte ouverte qui est organisé dimanche 25 février de 15 à 17h, donc ici à Rennes. Pour resituer, peut-être que le nom est familier aux auditeurs, Permagraine, c'était le projet de Mika, qu'on connaît bien car il a été bénévole à Canal B avec une émission qui s'appelait Anthropocène durant plusieurs années. Il a développé du maraîchage en permaculture sur ce terrain, tout près de l'écocentre de la Taupinet. Il est parti vers d'autres horizons avec d'autres projets, et c'est là qu'une association se monte dans l'idée de prolonger, de poursuivre le projet sous une autre forme. L'idée, elle est arrivée quand ?
Alors l'idée, elle est arrivée il y a presque 3 ans, quand Mika avait déjà émis l'idée de céder son activité. Une première équipe s'est montée, et puis au bout d'un an, en gros ça a capoté, le groupe n'a pas trouvé la cohésion nécessaire pour tenir le projet. Et il se trouve que dans les milieux militants, ça se savait que la ferme était en reprise. Et on a su que le groupe avait échoué. Et il se trouve que comme moi j'étais déjà actif en tant que militant sur la Prévalais, d'autres militants, Extinction Rebellion, etc., sont venus me voir. Est-ce que tu es intéressé pour qu'on prenne le projet ensemble ? Et j'ai tout de suite dit oui.
C'est peut-être le moment où juste on redit qu'il y a donc ce collectif qui est toujours actif sur la Prévalais, qui est assez vigilant à ce que les terrains naturels et agricoles conservent cette vocation-là, avec parfois des tensions liées à des projets d'aménagement.
Oui, tout à fait, c'est encore en cours. On était en réunion pas plus tard que la semaine dernière avec les élus pour parler de questions de pollution et des questions d'eau et de qualité de l'eau sur la Prévalais et le bassin rennais.
Donc une association se monte pour reprendre le projet Permagraine sous le nom des Amis de Permagraine. L'idée, c'est toujours la même, défendre une agriculture et une alimentation saine et durable. Vous êtes combien aujourd'hui dans ce projet, et puis avec quel profil est-ce qu'on trouve des étudiants, des plutôt militants écolo, peut-être des gens issus du monde agricole? Est-ce que tout ça se mélange?
Alors on trouve essentiellement des gens qui ont une sensibilité écologique assez avancée, ça c'est clair. Je dirais qu'on est à peu près 60-70 aujourd'hui dans les membres adhérents de l'asso. On a environ la moitié qui sont des bénévoles qui passent régulièrement ou de temps en temps sur la ferme, et puis moins de 10 personnes, entre 5 et 10 personnes qui sont plutôt sur le côté support, administratif, organisation, animation.
Et aujourd'hui, vous comptez une personne qui est salariée, une maraîchère, depuis quand? Et puis, quel est son rôle? Elle est là tout le temps, sur le lieu?
Alors oui, dès le départ, on a fait le choix d'avoir quelqu'un qui soit là à plein temps chez nous. Alors, pas à plein temps, elle est à 24 heures semaine. Et donc, c'est Souria, et c'est notre maraîchère. Elle a une formation en maraîchage. Et on lui fait totalement confiance. C'est quelqu'un d'extrêmement communicant, qui mène des animations, qui a aussi des connaissances et des compétences sur l'histoire de l'agriculture. Donc ça lui permet d'avoir un discours très large, pas seulement de maraîcher, mais un peu d'historienne. Elle a un petit peu de recul, ça permet d'avoir des discussions très très ouvertes. Voilà, on a également un service civique et nous avons également une apprentie.
On va essayer de décrire un peu les lieux pour les auditeurs qui ne connaissent pas la ferme donc des Amis de Permagraine. On est dans le quartier de la Prévalais, décrit comme le poumon vert de la ville, à quelques pas de l'écocentre de la Taupinet. C'est vraiment juste à côté.
Alors non seulement c'est à quelques pas, mais c'est juste en face. On a juste à traverser la route, donc c'est très facile. Et un autre point de repère que les gens connaissent bien, c'est le centre d'entraînement du Stade Rennais, puisqu'on est aussi juste à côté. On voit le centre d'entraînement dans notre arrière-cour à travers le grillage.
Comment est-ce que l'espace s'organise sur la ferme ?
Alors, il y a 2 entrées, une assez visible, l'autre un petit peu moins. Le lieu est semi-ouvert, c'est-à-dire que c'est un terrain public qui est géré par une asso, donc il y a des questions de sécurité sur le site, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire des activités agricoles sans avoir une adhésion et donc une assurance qui vous couvre. Cela dit, ponctuellement, vous pouvez, ne serait-ce que pour découvrir, vous essayez à mettre les mains dans la terre, ça c'est pas un problème, vous pouvez passer n'importe quel jour où nous on est ouvert, typiquement les mercredis et les dimanches on a des activités récurrentes toutes les semaines, avec justement Souria qui fait les animations. Et donc le lieu il fait un petit peu plus d'un demi-hectare, c'est 6 300 m². Pour info, un hectare c'est 10 000 m², hein, c'est 100 par 100. Donc on est sur une petite surface pour une ferme, hein, on parle plutôt de micro-ferme urbaine. L'idée c'est de s'essayer, hein. C'est pas forcément de faire une production alimentaire qui va nourrir toute la ville. L'idée c'est plutôt de réapprendre à mettre les mains dans la terre, de connaître les savoirs fondamentaux. On a peut-être tendance à croire que l'agriculture c'est facile, il suffit de mettre la graine dans le sol et puis on s'en occupe plus après, alors pas du tout. Si vous pensez que c'est ça, ben, vous allez avoir de grosses désillusions le jour où vous en aurez besoin. Donc l'idée c'est aussi d'augmenter le niveau d'acculturation globale sur les questions agricoles, que ce soit la graine, que ce soit les questions de sol, d'humidité, de gestion des invasifs.
De ou, taille aussi ou en
de,
ce moment.
De taille, etc. D'amendement des sols, d'exposition, d'arénage du sol. Donc il y a beaucoup de questions sous-jacentes qui rendent en fait le sujet à la fois complexe et intéressant.
Amendement, ça veut dire quoi ?
C'est un ajout de matière organique pour enrichir le sol. Alors on peut aussi faire un amendement minéral, hein, c'est ce que fait l'agro-industrie en mettant l'azote, du phosphate et du potassium en grande quantité. Nous, on fonctionne avec plutôt des apports organiques qui sont issus des activités humaines, que ce soit des déchets de cuisine ou des activités agricoles. Ça peut être le type de la fauche, de foin, de paille, ça peut être aussi du fumier, etc.
Alors, pour parler de ce que vous y faites concrètement sur la ferme des Amis de Permagraine, il y a plusieurs rendez-vous qui reviennent régulièrement, qui sont ouverts à tous. D'abord dire que chaque mercredi et chaque dimanche, c'est plutôt jardinage et chantier collectif sur tout ce qu'il y a à faire sur une ferme.
Exactement, c'est l'occasion à chaque fois de faire un petit peu d'aménagement de la ferme à plusieurs, encadré par Souria, qui a toutes les compétences et connaissances pour vous aider, en plus d'être extrêmement aimable et sympathique. Et donc ça dure en moyenne 2 heures, on va préparer une planche, on va préparer un plan de culture, mettre en terre des oignons, des patates, voilà, etc. Des, vraiment les grands classiques.
Il y a aussi des causeries qui sont organisées une fois par mois pour cogiter, réfléchir sur des sujets liés à l'écologie. Par exemple, la dernière, elle s'appuyait sur un film « Au-delà des clôtures » pour parler du système herbager et de modèles agricoles alternatifs aux modèles intensifs et productivistes. Autre rendez-vous, il y a le marché à la ferme qui a lieu chaque dimanche et où donc vous vendez ce qui est produit sur le lieu, c'est ça ?
Alors tout à fait, on vend la production de la semaine. Parfois on vend quelques productions amies. Annette notamment nous a aidé à une époque.
Annette qui est l'association Nature-Environnement de Torigné-Fouillard.
Exactement. Et donc je leur passe un petit coucou d'ailleurs, merci à eux. Et donc le dimanche, il y a chantier collectif de 12h30 à 15h. Et sur ce temps-là, viennent aussi des personnes qui n'ont pas forcément envie de mettre les mains dans la terre, ça peut se comprendre, mais qui veulent quand même soutenir la ferme. Et en achetant nos légumes, eh bien, c'est une forme de soutien. Nous, on a besoin d'avoir des gens qui viennent nous voir, de vendre nos produits, de sentir que ça intéresse du monde. On a bien conscience que, comme on est débutant, on repart aussi d'un potentiel très élevé. Mika, il avait un gros potentiel affectif associé à lui. Nous, ça ne s'est pas passé dans les mêmes conditions. Donc, on doit un petit peu reconstruire notre réputation et l'envie de venir jusqu'à nous. Donc, la première année, c'était relativement modeste. Aujourd'hui, on a plus d'ambition pour cette année. On espère aller plus haut, plus fort et plus loin.
Et alors, est-ce qu'au mois de février, on trouve encore des légumes ? Il reste quoi, là, en cette saison qui est peut-être un peu creuse ?
Il me semble qu'il y a des poireaux en ce moment. Il reste sans doute quelques patates qui avaient été mises en conservation. Il doit y avoir des radis, quelques salades. Voilà.
Également, chez les Amis de Permagraine, des ateliers pratiques ou théoriques qui sont organisés et puis des moments de soutien à d'autres collectifs. On sait que le territoire rennais est riche en projets associatifs autour de l'écologie. Est-ce qu'il y a un collectif ou une association un peu amie et dont les combats sont proches du vôtre ?
En fait, on a d'autres assos qui sont proches de nous dans le mode de fonctionnement et dans les intérêts. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est évidemment les Mille Pas, la ferme des Mille Pas, qui est accolée à la basse-cour. C'est une guinguette qui est située à la Prévalet. Et moi, à titre personnel, j'ai été proche de ce groupe-là dans mes luttes à la Prévalet avec le collectif de la Prévalet. Et j'ai moi-même suivi des cours aux Mille Pas, notamment sur les plantes sauvages et médicinales.
Dimanche 25 février, vous ouvrez les portes de la ferme des Amis de Permagraine, qui est donc chemin de la Taupinet dans le quartier de la Prévalet. Il va se passer plusieurs choses de 15h à 17h si on met de côté le chantier collectif qui de toute façon a lieu tous les dimanches. Là, c'est vente à la ferme, goûter et puis surtout un moment pour parler de ce que vous faites et de ce que vous ferez aussi dans l'année à venir.
Alors tout à fait, c'est même le sujet principal, je dirais, c'est de se projeter sur l'année à venir et sur les années à venir. C'est l'occasion aussi de renouveler des membres du CA. Moi, typiquement, j'en sors, donc il y a une place de disponible pour d'autres. Et ça va être l'occasion éventuellement d'amener des éléments, si vous êtes une personne extérieure qui ne connaissait pas l'affaire, mais vous avez déjà des expériences agricoles, vous avez une idée en tête, ça peut être le moment de l'exprimer et essayer de trouver des acteurs avec vous présents sur l'asso pour formaliser, rendre ce projet concret.
Et donc là, on se retrouve fin février pour annoncer ce temps. Donc ça se passe de 15h à 17h pour ce qui est vente à la ferme, goûter d'hiver, et puis pour rencontrer vos équipes, des amis de Permagraine. Et en même temps, la fin février, vous êtes aussi, on imagine, dans une période de préparation pour le printemps qui arrive. Ça veut dire qu'il y a plein de choses à faire, justement, au-delà de mettre des graines dans la terre.
Alors oui, c'est justement préparer les plans de culture. C'est de décider qu'est-ce qu'on va cultiver, où, sur quel espace, etc. Donc là, c'est dans les cartons. Je peux vous dire qu'on est aussi en train d'ouvrir de nouveaux espaces. C'est-à-dire que l'année dernière, on n'a pas pu occuper l'entièreté de la surface qui nous était allouée. Donc là, cette année, on a défriché pendant l'hiver. Et on va avoir de nouvelles zones de culture, notamment une zone plantes aromatiques et médicinales que nous n'avions pas l'année dernière. Et puis une zone un peu plus dédiée aux plantes sauvages. Alors, globalement, le site est très dédié aux plantes sauvages. On laisse beaucoup de zones non cultivées, qui sont aménagées, mais qui restent non entretenues en permanence. On tient à la biodiversité du lieu, et d'ailleurs, on sait que ça a permis d'améliorer considérablement la présence des insectes sur place. On a eu des comptabilités qui ont été faites notamment sur tout ce qui est insectes volants, abeilles, etc. Et en 4-5 ans, ça s'est décuplé. Donc on va continuer là-dessus. Et il se trouve que moi, je suis très ennoté sur les plantes sauvages aussi.
Donc c'est que le projet fonctionne. Je vous représente, Anthony Morand. Vous êtes donc le porte-parole des Amis de Permagraine, une association qui porte un projet de ferme urbaine, de micro-ferme urbaine à la Prévalais. On vous a reçu pour annoncer cette après-midi porte ouverte qui est organisée dimanche 25 février de 15h à 17h. Le programme, il est à retrouver en ligne sur les réseaux sociaux à travers une page Facebook, un compte Instagram et puis aussi sur une page Hello Asso. Merci beaucoup.
Merci.
Gira, deixa girar.
un extrait du morceau Deisha à Jilar, Jilar par Os Tinkwas, dans une version revisitée d'un certain JGB, c'est un titre qui est sorti en 2016, et c'est le choix musical d'Anthony Morand qu'on vient d'entendre en interview, membre des Amis de Permagraine. C'est un titre brésilien des années 70, mais revisité donc, et que vous venez d'entendre dans l'arène, l'émission d'info locale de Canal B. À tous les coups, vous êtes branchés sur 94.0, ou peut-être connecté en ligne sur le site canalb.fr où vous pouvez retrouver les podcasts de ces émissions juste après leur diffusion. Et on va poursuivre notre spéciale lutte environnementale et sociale en Bretagne, comme chaque dernier vendredi du mois, en partenariat avec d'autres radios membres de la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne. L'idée, c'est de vous emmener un petit peu plus loin que Rennes pour vous informer sur d'autres combats menés et puis pourquoi pas pour nous inspirer ici dans la région rennaise. Simon Leclerc de Radio Laser, qui est installé à Guichen, a reçu des lycéens rennais en studio. Anna, Fanche et Arwen se sont mobilisés avec d'autres jeunes, d'ailleurs en France, pour défendre les langues régionales. Ça, c'était devant le ministère de l'Éducation nationale le 7 février dernier, à l'initiative du collectif Pour que vivent nos langues.
Bonjour à vous trois.
Bonjour. Bonjour.
Alors, Anna, est-ce que tu peux nous raconter cette action à Paris ?
Eh ben, on est allé à Paris avec d'autres jeunes de toutes les régions, enfin de plusieurs régions de France, donc l'Occitanie, l'Alsace, la Bretagne, les Basques et les Corses. On a représenté une classe bâillonnée pour montrer qu'on nous empêchait de parler nos langues respectives. Et ensuite, 6 jeunes de chaque région sont allés dans l'Assemblée nationale pour discuter avec des députés de qu'est-ce qu'il en était exactement de la situation des langues régionales.
Est-ce qu'un d'entre vous a pu participer à la discussion ?
Non.
Bon, c'est pas grave. En tout cas, est-ce que vous savez ce qui s'est dit, Fanche ? Qu'est-ce qui s'est dit avec ces élus ?
De ce qu'on m'a dit... du récapitulatif, c'est que beaucoup de la plupart des députés étaient pour les langues régionales qui assistaient à la réunion et ils étaient très à l'écoute et je crois que ça a bien marché parce que de base ça devait durer une heure et au final ça a duré une heure et demie, du coup ils ont bien réussi à se faire entendre, etc.
Vous avez été écouté alors.
Voilà.
Et Arwen, qu'est-ce que vous aviez comme exigence pour changer un peu les choses ? Parce que quand on n'a pas votre cursus, on ne se rend pas bien compte de ce que c'est votre quotidien. Qu'est-ce que vous vouliez comme changement ?
On voudrait que déjà les langues soient reconnues pour notre bac. Donc le breton, c'est pas reconnu comme une filière bilingue, c'est reconnu que comme une option. Alors que par exemple, les gens qui font euro-anglais, c'est reconnu comme une filière. Alors qu'on parle mieux breton que les gens qui sont en euro-anglais. Aussi, que ce soit valorisé sur Parcoursup et qu'on puisse passer les épreuves dans notre langue régionale parce que, par exemple, les Basques, ils savent mieux parler, ils savent mieux parler basque que français et donc ça leur fait une difficulté en plus quand ils passent le bac de devoir le faire en français.
Tous les trois, vous trouvez que votre capacité à parler le breton, elle est dévalorisée au sein du système scolaire, c'est un peu ça le son de cloche ?
Ouais.
C'est ça.
Donc vous n'étiez pas seulement qu'entre bretonnants, c'est intéressant, vous vous êtes senti un peu solidaire des jeunes d'autres régions qui parlent leur langue régionale, vous avez pu échanger, qu'est-ce que vous leur avez dit ?
Moi j'ai trouvé ça très bien parce que je me rendais pas trop compte qu'il y avait d'autres parties en France qui luttaient pour les langues régionales. Et du coup j'ai pu faire la connaissance avec des Corses, des Alsaciens et autres qui avaient un peu les mêmes idées que moi, et du coup j'ai trouvé ça très très chouette.
Donc ça aide un peu de se sentir moins seul. C'est quoi la suite, Anna ? Qu'est-ce qui va se passer maintenant que cette action elle a eu lieu ?
On espère déjà que ça va pouvoir apporter des changements, et l'idéal ce serait qu'on puisse recommencer une autre action dans ce genre-là, ou se revoir en tout cas, mais pour l'instant ça n'a pas été défini.
C'est intéressant de vous avoir tous les trois autour de cette table, parce qu'on va justement pouvoir parler un petit peu de pourquoi vous avez choisi d'apprendre le breton. Arwen, qu'est-ce qui t'apporte cet enseignement ?
Ça fait un peu un enseignement plus particulier, parce que les profs, ils nous suivent tout le collège et après tout le lycée. On est avec les mêmes personnes depuis la 6e, donc on a créé des liens forts. Et je pense que ça peut nous permettre aussi d'avoir une mesure de travail, parce qu'on a une option en plus. Donc, on est plus Ça nous apprend à gérer la charge de travail qui est plus importante que les gens qui n'ont pas cette option.
Et puis Anna, est-ce que c'est une langue que tu as l'occasion d'utiliser hors de l'école ?
Dis-moi, j'aimerais beaucoup l'utiliser plus en dehors de l'école. Maintenant, sur Rennes, il n'y a pas grand-chose pour parler le breton. Donc...
Pas d'association bretonnante. C'est peut-être des choses que vous allez pouvoir créer, vous. Est-ce que vous aimeriez œuvrer pour la langue bretonne quand vous allez être adulte ? Je vous pose la question à tous les trois. Peut-être que vous avez des idées déjà ?
Moi, j'aimerais bien devenir instit en breton pour justement transmettre cette langue.
C'est une sacrée décision, puisque actuellement, les choses sont un petit peu compliquées, mais toi, t'y crois quand même. Tu as envie de continuer, c'est ça ?
Oui.
Moi, j'aimerais bien faire une ferme associative avec mes potes en breton.
Alors, pourquoi ce choix ? Pourquoi une ferme associative en breton ? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce projet ?
Moi, l'agriculture, ça m'a toujours plu, mais c'est pas trop ça qui est l'important aujourd'hui. Mais le breton, avec mes amis, on parle à peu près tous, ou sinon les autres sont en train d'apprendre le breton. Et du coup, on s'est dit que ça pourrait être chouette. Et du coup, pourquoi pas, hein.
Et Arwen, une envie particulière avec le breton à l'avenir ?
Moi, je voudrais que mes enfants apprennent le breton aussi. Après, dans mon métier, je sais pas trop encore.
Il y a le temps d'y réfléchir. En tout cas, vous allez continuer tous les trois. Vous en avez encore pour combien d'années d'apprentissage du breton ?
Alors moi, je suis en terminale, donc l'année prochaine, c'est fini. Mais j'aimerais faire une licence de breton, donc continuer quand même.
Je vais poser une question naïve, mais ça existe une licence de breton ?
Oui.
On peut faire ça ici à Rennes, peut-être ?
Oui, à Rennes 2.
À Rennes 2, ok. Bon, on se renseignera. Tiens, pourquoi pas recevoir des gens qui gèrent ce cursus ? Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui sont jeunes comme vous et qui peut-être ont envie d'apprendre le breton mais passent pas le cap? Comment on les motive à le faire?
Ça donne une identité de parler breton, ça donne un but, une langue à protéger, une langue à sauver. Étant donné qu'il n'y a plus que 250 000 locuteurs et que 70% d'entre eux ont plus de 60 ans. Si les jeunes ne prennent pas le relais, s'il n'y a pas de plus en plus de jeunes qui apprennent cette langue, elle finira par disparaître. Et ça, c'est dommage.
Ouais, parce que c'est une vraie richesse, le breton. Et même les langues régionales en général.
Pourquoi tu le vois comme une richesse ?
C'est comme tout dans une culture, il y a toujours des richesses. La langue est une richesse. Donc pour moi, le breton est la langue de ma culture bretonne. Et c'est une richesse.
Ça fait partie de notre patrimoine.
C'est vrai que Fange, j'aurais pu en parler, mais c'est une langue que vous sentez en danger.
Ouais, un peu quand même. Par exemple, quand je marche dans Rennes, j'entends pas souvent du breton. Et j'entends plus souvent du français, mais pas trop de breton.
On peut vous entendre peut-être tous les trois là, ça vous arrive de parler, je sais pas si vous vous connaissez bien en dehors de ce studio, mais avec vos collègues qui apprennent le breton, ça vous arrive de le parler ensemble ?
Non, parce que au collège par exemple, on n'était pas très bien vus, parce qu'on était les bretonnants, ceux qui apprenaient le breton, et ça passait pas trop au collège. Donc si on s'était mis à parler breton, en plus, entre nous, ça aurait été très mal vu. Et donc du coup, on n'a pas pris l'habitude de parler breton et l'habitude n'est jamais venue.
Donc la meilleure chose qu'on pourrait vous souhaiter, c'est que ce soit plus vu comme quelque chose de marginal d'apprendre le breton, en fait. Ça ouais. Pourrait être une bonne conclusion. Je vais remercier mes trois invités. Donc vous êtes tous les trois lycéens à Rennes, hein, oui. J'ai tout bon. Et mes invités, c'était Arwen, Fanche ainsi que Anna. Merci à vous trois.
Merci.
Du combat pour les langues régionales, on passe à celui pour un numérique éclairé avec le sujet de Transistor, ex-Radio Évasion, qui est installé dans le Finistère, au FAU. Et c'est le premier portrait d'une série que vous allez entendre à la rencontre des militants du numérique libre en Finistère. En plus de Johan, vous pouvez retrouver deux autres épisodes en ligne sur radioévasion.net. Tout de suite, on retrouve Olivier Béon lors d'une install party qui était organisée à Châteaulin fin 2023.
Linux, c'est un système d'exploitation qui est moins bien connu que ce que tout le monde a, qui est Microsoft Windows. Enfin, ça, c'est l'entreprise qui le vend, mais c'est Windows, Windows 10, Windows 8, etc. Et donc, c'est une alternative à ça qui se trouve être généralement gratuite. C'est pas vraiment le critère, c'est plutôt que c'est du logiciel libre, donc un bien commun numérique. Qu'on peut donc distribuer sans payer, et donc ça permet de proposer une alternative aux gens qui veulent ne pas utiliser Windows sur leur machine.
D'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme système d'exploitation sinon ?
Il y a OS X qui est le système d'exploitation d'Apple. Et puis après, il y a plein d'autres systèmes d'exploitation spécialisés par exemple pour les téléphones portables, genre iOS pour les smartphones d'Apple. Il y a eu plein d'OS 10 qui ont disparu depuis aussi. En fait, il y en a plein aujourd'hui, mais assez méconnus aujourd'hui. C'est Microsoft qu'on trouve partout. Android sur les smartphones, c'est ce qu'on voit le plus souvent aussi, qui a un dérivé de Linux aussi à la base. Ouais, voilà.
D'accord. Et quels sont les avantages de Linux ?
Ah, c'est une bonne question. Un peu large. Ça a surtout l'avantage d'avoir été développé par des autres choses que des entreprises qui cherchaient à faire de l'argent sur leur logiciel. Et donc, on n'y retrouve pas, par exemple, de la pub, on n'y retrouve pas des logiciels de tracking. Quelque part, ça fait moins de choses, dans le sens que ça fait moins d'opérations déloyales derrière notre dos. C'est un bien commun, donc il n'y a pas de coût par derrière. Voilà, c'est le gros avantage du truc. Anticapitaliste dans l'idée de tu répares une machine qui repart et donc il n'y a pas besoin d'acheter une neuve et on conseille plutôt d'acheter de l'occasion sur lequel on va pouvoir refaire tourner un Linux qui globalement consommera moins de ressources et donc ça nous permet de soit sauver des machines de la benne soit d'empêcher d'en acheter une nouvelle au supermarché.
Par exemple, moi j'avais un ordi qui fonctionnait très mal sous Windows. Ouais. Là on vient juste d'installer Debian. Donc, est-ce que tu penses que l'ordi va être plus efficace ?
En règle générale, oui. On peut pas toujours faire des miracles. Selon aujourd'hui, en fait, malgré le fait que la machine est toujours, on peut faire. Les logiciels sont quand même de plus en plus lourds malgré tout, et les sites web aussi sont de plus en plus complexes. Donc, avant, on avait besoin de presque rien comme machine pour aller sur Internet et faire ce qu'on voulait. Et aujourd'hui, même pour afficher des pauvres images, malheureusement, on met des effets de fondu complètement inutiles et des trucs dynamiques et qui nous font qu'on a besoin finalement de machines surpuissantes pour faire pas grand-chose. On fait toujours la même chose depuis le début. Et donc, malgré le fait qu'on arrive à sauver plein de machines, il y en a plein d'autres qu'on n'essaye même plus. Maintenant, on voit la machine et on se dit, ça vaut même pas la peine d'essayer. Un critère simple, c'est on veut au moins 4 gigas de RAM sur nos machines maintenant, parce que avoir moins, ça fait qu'au bout d'un moment, ton navigateur se bloque et donc c'est désagréable. Et un ordi désagréable, ça vaut même pas la peine de s'acharner. Ça coûte rien en plus. Donc, ça coûte rien pour ce que c'est, quelque part.
D'accord.
Aujourd'hui, pour 100 euros, tu as une machine moderne sur n'importe quel site d'occasion et voir des ordis gratuits. Linux Kerper fait des distributions d'ordinateurs modernes, relativement modernes pour naviguer sans se faire mal à la tête, quoi. Ouais.
D'accord. Est-ce qu'il y a des inconvénients ?
Des inconvénients, c'est qu'aujourd'hui, la plupart du matériel est conçu pour tourner sous le logiciel majoritaire. Et aujourd'hui, en majorité, tu auras un ordinateur sous Windows ou tu auras un smartphone sous Android. Et donc on aura des problèmes de compatibilité avec certaines imprimantes, par exemple, qui ne seront pas forcément compatibles. La plupart le sont aujourd'hui, mais à une époque, c'était très compliqué. Ça peut être compliqué d'installer Linux sur certains ordinateurs qui ont des verrous pour être installés que avec Windows, etc. Donc il y a des problèmes comme ça. Il y a aussi d'autres problèmes pour les professionnels qui sont formés sous des logiciels très précis comme Photoshop par exemple et qui vont fonctionner pas bien sous Linux parce qu'ils n'ont pas prévu. En fait, c'est eux qui n'ont pas fait l'effort de le rendre compatible pour autre chose que les OS majoritaires sur le marché. Et donc on se retrouve bloqué. Et donc on a des alternatives libres, bien sûr, mais comme GIMP, pour, par exemple, en alternative à Photoshop, mais c'est pas la même chose, et bref, faut se reformer entièrement. Krita aussi, en logiciel libre. Il y a un dessinateur très connu qui, en logiciel libre, qui fait tout sans ça, mais c'est l'exception, quoi. Voilà.
Donc c'est pas un OS, enfin OS, qu'est-ce que ça veut dire OS ?
En gros, un ordinateur, en soi, ça ne sert à rien, c'est juste une brique si vous n'avez pas d'OS. C'est la partie logicielle qui nous permet d'utiliser le matériel. Sans ça, on ne peut rien faire. En fait, on installe un logiciel sur un système d'exploitation qui permet d'utiliser l'ordinateur. Sans quoi, on a juste un truc qui s'allume et qui fait tourner des ventilateurs et on n'est pas avancé.
D'accord, donc c'est operating system, c'est ça ?
Ouais.
En termes de part de marché ou de nombre de systèmes Linux, c'est vraiment peanuts ?
C'est compliqué de répondre à la question parce qu'à la fois c'est partout et à la fois c'est nulle part. C'est partout dans le sens que tu le trouveras partout dans les serveurs, tous les serveurs web aujourd'hui. En fait, quand tu vas sur Facebook, tu es probablement sur un serveur qui tourne sous Linux. tous les gros calculateurs mondiaux et tout, c'est du Linux généralement. Tous les trucs sérieux généralement tournent sous Linux, ou qu'on veut qu'il n'y ait pas de bug et que ça tourne. Et par contre, après, quand tu vas chez les particuliers, là par contre, on est plutôt très minoritaire, on est plutôt dans le 1%, voire moins, mais c'est très compliqué de dire les parts de marché en réalité. En fait, personne ne peut dire, mais ce que voient les grands sites, en fait, les grands sites web peuvent voir à peu près qui les consulte, et globalement, comme ça, on peut avoir une idée. Donc, c'est moins d'1%, très probablement. Mais sinon, c'est partout. Et par exemple, si on dit qu'Android, c'est un Linux, parce qu'à la base, une partie du code vient de Linux dans Android, ben dans ce cas-là, c'est la majorité des parts de marché des smartphones. Donc, on pourrait dire qu'une partie de Linux est partout et nulle part, quelque part. Voilà.
D'accord, je comprends. Et donc, tu peux présenter ton association ou ton organisation à qui parler. Tu me disais que c'était pas une asso, justement.
Non, voilà, on n'est pas une asso loi 1901. Ouais, voilà. On n'a pas fait de papier ni rien. On est juste. C'est une personne au début qui s'est dit qu'elle allait présenter Linux et montrer comment ça marche dans les médiathèques. Et puis moi, je l'ai rejoint. Et puis voilà. Et on fait ça tous les mois et ça se passe comme ça. Et pareil, et parfois on s'organise avec d'autres associations qui ne sont pas forcément établies comme nous d'ailleurs, comme Linux Quimper qui est plus grand que nous et qui, je sais pas, qui représente une vingtaine de bénévoles au moins et qui font des trucs même toutes les semaines et qui viennent nous aider de temps en temps et du coup nous on fait pareil. Voilà, comme ça on se rencontre.
Et donc vous êtes combien à Quimperlé ?
De vraiment permanent, deux plutôt, mais maintenant il y a 3-4 personnes qui viennent en plus, du coup voilà.
Et où est-ce qu'on peut venir vous voir, donc une fois par mois, pour une install party ?
Alors, à la médiathèque de Quimperlé. Et donc, le plus simple, vraiment, pour trouver nos dates et les lieux, même, c'est il y a un site web sur le web, du coup, qui s'appelle l'Agenda du Libre, sur lequel on peut dire, par exemple, je suis à tel endroit sur une carte et je veux tout ce qui se passe à 30 km autour de chez moi. Et là, du coup, on voit tous les événements où il y a des gens comme nous qui font des formations gratuites.
À part Quimperlé, il y a d'autres associations, des clubs qui organisent des install parties et qui vous font découvrir le monde du livre. Et il y en a notamment du côté de Saint-Rivoil. Ce sera le sujet du prochain épisode.
Tu reviendras bientôt, je te vois quand je ferme les yeux. Donc je veux plus ouvrir les yeux. Donc j'avance dans le noir et je me cogne contre un mur. Et j'ai une bosse sur le front. Aïe, ça fait mal, mais t'en fais pas. Tout va bien, maintenant je suis avec toi. Le sang coule sur mon visage et se mêle aux larmes de joie. Tu tiens ma main dans l'ambulance. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme toi qui sera toujours là pour moi.
Dino Voldan, un jeune chambérien avec son titre « Larmes de joie ». C'est une presque nouveauté musicale qui fait partie de la compilation « Fait maison 2 » sortie au mois de novembre par La Souterraine. Et c'est Yann Barbotin, notre programmateur musical à la radio, qui a repéré ce titre pour vous. Avant de se quitter, tiens quand même, la recommandation du jour. La recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des conseils modestes d'événements à vivre près de chez vous, parfois aussi de quoi nourrir vos envies de lecture, de podcast ou de documentaire. Et aujourd'hui, justement, conseil de documentaire à voir, Ce qui appartient à César, c'est le 4e court-métrage de Violette Guiton, une réalisatrice rennaise de 24 ans. On y découvre César, 11 ans, dont la grande sœur est victime d'agressions sexuelles. Dans les vestiaires de ses cours d'escrime, la puberté frappe de plein fouet. César voudrait prendre part à tous les combats, mais il n'a pas les armes. Un film à voir avec les courts-métrages de 8 autres jeunes cinéastes dans le cadre du programme Grand 8, et tout ça en partenariat avec le festival Travelling édition 2024. Rendez-vous au cinéma Larvor, ici à Rennes, dimanche 25 février à 18h45. La Rennes, c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la reine, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.